for those before
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Ce soir, on va consacrer cette émission à la question des déchets nucléaires. On a souvent parlé sur cette antenne de la lutte de Bure, de cette lutte très importante pour empêcher l'installation de l'Andra et de Cigéo à Bure. Alors avec nous, on a Jean-Marc Fleury qui était venu la semaine dernière pour présenter une conférence sur les personnes, avec les personnes qui militent à Bure depuis une vingtaine d'années, c'est ça, hein, Jean-Marc?
Oui.
Bonjour. Et donc, on va aborder cette question. Pourquoi aujourd'hui, il est question que l'État propose de nouveau une espèce de débat public bidon, complètement bidon, qui s'est déjà produit plusieurs fois, mais sans jamais donner le sens à la population, la possibilité de décider de quoi que ce soit. Donc on va revenir là-dessus dans le détail. Mais là, j'ai un petit texte sous les yeux. Je ne vais pas le lire intégralement, mais ça va juste donner un peu quelques points de départ. Pourquoi certains refusent-ils de participer à ce débat public sur l'enfouissement des déchets à Bure? Alors, depuis plus de 50 ans, la France produit des déchets radioactifs. Elle ne sait pas quoi faire de ces déchets, mais on continue d'en produire. Quand ça pète à Tchernobyl ou à Fukushima, personne ne sait éteindre le feu nucléaire qu'on voudrait cacher sous terre. Ici, à 500 mètres de profondeur, à Bure, pour les déchets. Alors, la population, effectivement, n'a jamais été consultée sur le choix du nucléaire en France, que ce soit pour les centrales, et bien évidemment que ce soit pour les déchets à Bure. Alors, en 2005, il y avait eu un pseudo-débat où il était question de l'option de l'enfouissement. Il avait été majoritairement rejeté par les participants. Et aujourd'hui, le même public est invité à participer à un nouveau débat portant sur les modalités de cet enfouissement rejeté il y a 8 ans. Alors là, on est encore plus tard, on est en 2019. Et alors, tu vas nous raconter un peu pourquoi et dans quelle posture vous êtes, l'ensemble des, bien sûr, les élus qui sont opposés, les élus opposants, puisque tu fais partie d'une association d'élus opposants aux déchets nucléaires et à Cigéo, et l'ensemble des associations impliquées dans cette lutte. Voilà.
Oui, alors, je vais faire un petit résumé, on va dire, de la concertation. Ça va être un petit résumé, parce que comme tu l'as dit, on lutte depuis plus de 20 ans contre ce projet. Donc moi, je suis une association d'élus qui, à l'origine, s'appelait Association des élus meusiens. Elle a évolué plusieurs fois et maintenant, c'est l'association des élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs. Donc, on a cheminé au gré des événements, j'allais dire, dans notre réflexion. Et on est maintenant convaincu qu'il faut faire ça nulle part et pour aucun déchet nucléaire. L'enfouissement n'est pas pour nous une solution. Alors par rapport à ce que tu disais, par rapport à la concertation publique, au débat public, ce qu'il faut se souvenir, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'avant, il y a longtemps qu'on essaye d'enfouir les déchets nucléaires. Donc on a essayé dans les années 80 de l'imposer, si je puis dire, d'imposer l'enfouissement. Donc ça s'est fait dans plusieurs régions et l'endroit a été mis dehors chaque fois par tout le monde, hein, unanimité des élus, des citoyens, enfin personne ne voulait de cette solution. Pas de cette solution à l'époque, c'était même pas une solution, c'était on disait ben, on arrive chez vous, on va y enfouir des déchets nucléaires. En gros, c'était la position de l'État. Devant les oppositions multiples, il y a eu la loi de 91, donc un moratoire qu'on appelait le moratoire Rocard, la loi de 91 qui, elle, définissait trois possibilités de recherche, on va dire trois voies de recherche. Donc il y avait l'enfouissement en couche profonde, ce qu'on propose à Bure. Il y avait la transmutation qui, en gros, transformait les déchets pour qu'ils deviennent inoffensifs. Mais,
ça, on ne sait pas faire.
Compliqué, hein. On ne sait pas faire, c'est un peu... moi, je compare à la recherche de la transformation du plomb en or. Quoi.
C'est ça.
Pour l'instant, on sait qu'on n'y a pas réussi non plus, et pourtant, Dieu sait que ça fait longtemps qu'on essaye. Et puis, la troisième voie, c'est l'entreposage en surface ou en subsurface, hein, en attendant de trouver justement une vraie solution. Hein. Pour l'instant, pour moi, les trois voies de recherche, c'est des options, on va dire, et c'est pas des solutions. Hein. Donc, quand on nous propose en 2015, de septembre 2015 à janvier 2016, de faire un débat public, ben, on a envie d'y participer et on y participe. Alors, le rendez-vous de 2016, il est issu de la loi de 91, où il était prévu que 15 ans après la loi, il y aura à nouveau une saisine du Parlement. Donc c'est pour ça que ce débat a lieu à l'époque. Donc bah, toutes les assos locales participent à ce débat, quasiment on y participe tous, on apporte nos arguments qui sont scientifiques, qui sont éthiques, enfin qui sont de tous les niveaux. Et on n'est pas les seuls à participer, il y a bien sûr un débat national, donc toute la nation y participe, en tout cas toutes les associations qui sont liées de près ou de loin au nucléaire, qu'elles soient pour ou qu'elles soient contre, de toute façon. Et la conclusion de ce débat, c'est que la préférence va à l'entreposage en surface ou en subsurface.
Voilà, c'est en 2005, ça.
Ça, c'est en 2006, oui. Hein, les conclusions
ouais.
du débat sont données en 2006. Hein.
Oui.
Et puis, qu'est-ce qui se passe en 2006 le Parlement est donc à nouveau saisi, hein, comme ça avait été prévu par la loi, et le Parlement lui décide, de façon unilatérale, ben de promouvoir la solution d'enfouissement en couche profonde comme solution de référence. Donc c'est la plus grande arnaque, je dirais, dans cette procédure. C'est celle-là, hein, c'est 2006, puisque la loi de 2006, finalement, elle s'assoit sur la volonté nationale de l'opinion publique, en tout cas, et elle continue dans cette voie, enfin, elle continue pas, elle dit que cette voie de l'enfouissement en couche profonde, bah, c'est la meilleure voie, et puis c'est la solution de référence, donc les autres sont bah, mises en veille, pour le moins. Donc ça veut dire que depuis 2006, on n'a plus que ça, il n'y a plus de solution, plus d'alternative. L'alternative, c'est Bure ou Bure. Donc, à partir de là, on ne peut plus, nous, participer à des débats publics qu'on considère comme des arnaques. C'est pour ça qu'en 2013, on nous propose un nouveau débat public. Hein, et là, bah, là, nous, les associations opposées, qu'est-ce qu'on décide? C'est de bloquer. Blocage des réunions sur place, puisqu'un débat public, c'est des réunions locales très souvent. Hein, c'est par réunion. Et ça se fait, disons, directement entre les organisateurs du débat public et la population. Là, il se trouve qu'on a bloqué toutes les réunions. Je me souviens de la première à Bure qu'on a bloquée. Ensuite, on a bloqué une autre à Bar-le-Duc et une autre à Bonnet. Et puis finalement, bah, ils ont décidé, la commission du débat public a décidé à ce moment-là, quand ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas à mener leur débat, ils ont décidé simplement de passer à autre chose, c'est-à-dire qu'ils se sont servis d'outils Internet pour faire ce fameux débat. Donc, il s'est fait que par Internet. Et puis ensuite, bah, ils ont eu une autre idée, c'est la constitution d'un panel de citoyens. Donc ils ont choisi, soi-disant au hasard, des citoyens, ils les ont formés sur le sujet pour qu'ils donnent leur idée, leur proposition. Ce qui est arrivé après ça, c'est ce qu'ils appellent la phase pilote. Donc on a dit, il y aura une phase pilote, on va pas enfouir, décider d'enfouir tout de suite, on va se donner un peu de temps. En gros, c'est l'expérimentation, c'est on va mettre des déchets là-bas pendant 10-15 ans, puis ensuite on verra ce que ça donne, on fera un point. Si c'est une bonne idée, on continue, si c'est une mauvaise idée, on s'arrête. C'est une nouvelle arnaque parce que finalement des citoyens formés, il y en avait, j'en fais partie, d'autres en font partie. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher un panel de citoyens qu'on a formés. Alors qui les a formés? Bien sûr, l'industrie nucléaire et l'État. Donc on voit dans quelle direction on a formé ce panel de citoyens.
Oui, Jean-Marc, excuse-moi, ouais. Je te coupe une seconde. Justement, vous aviez déjà fait au niveau du CEDRA et des élus et tout ça, vous aviez déjà fait un travail de consultation, de rencontre avec tous les habitants, et vous aviez eu une vaste réponse négative par rapport à ce projet. Donc vous aviez fait tout un travail de sensibilisation dans les villages, dans de nombreux villages.
Ouais, on est passé dans toutes les communes de Meuse et de Haute-Marne à l'époque pour vous demander non pas si les gens étaient favorables ou pas, on a demandé simplement aux personnes s'ils voulaient être consultés par voie de référendum sur le sujet. Et on a récupéré en Meuse-Haute-Marne 65 000 signatures. Quand on connaît la population Meuse-Haute-Marne, c'est énorme. Hein. Ouais. Juste pour être consulté, mais quand on a remis tout ça au conseil général de Meuse et de Haute-Marne, donc conseil généraux à l'époque, ils n'en ont eu rien à faire. Quoi. Une fois de plus, on est dans un pays où on n'a pas envie de donner la parole aux citoyens. En tout cas, on veut bien lui donner la parole, mais on ne veut pas l'entendre. Donc à quoi servent tous ces débats publics où on fait semblant de donner la parole aux citoyens, mais on ne l'écoute pas? Donc tant que tout ça ne sera pas, modifié, réformé, nous on restera sur notre position de boycott, on refusera de participer à ces mascarades. Donc on l'a déjà fait en 2013, et puis là on va recommencer à le faire cette année, puisque en 2019 on nous propose à nouveau un pseudo-débat sur la gestion des déchets nucléaires de façon plus générale. Et localement, donc toutes les associations locales ont refusé bien sûr de participer à ce débat. Le réseau Sortir du Nucléaire est aussi sur cette position de refus, boycotté. Par contre, les ONG, on va dire, nationales, représentatives, alors par exemple Greenpeace, FNE, vont sous toute vraisemblance y participer. Alors c'est dommage, on s'est rencontrés, on a essayé d'en discuter, on voulait les convaincre qu'il ne fallait pas qu'ils y participent non plus. Mais bon, chacun dans cette affaire prend ses responsabilités.
Oui, je voulais juste une précision par rapport à Greenpeace. Je voulais signaler quand même qu'en 2010-2011, lorsqu'il a été question de faire vieillir le parc électronucléaire français, Greenpeace avait pris position pour accepter la prolongation de durée de vie des centrales nucléaires. Ce qui est quand même assez édifiant pour une association, une ONG internationale qui se prétend anti-nucléaire, quoi. Moi, ça me pose problème. Enfin, ça nous pose problème, en tout cas.
Oui, je pense que c'est Greenpeace, FNE, d'autres associations, des ONG non gouvernementales, font partie, pour moi, du système. Alors, bien sûr, ça ne va sûrement pas leur faire plaisir quand je dis ça, mais ça fait des années, des décennies même, que le système fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, avec ces débats, on leur donne quelques informations, un peu d'importance. On les reçoit régulièrement dans les ministères, et je pense que c'est devenu un peu, une cam, je suis méchant de dire ça, mais c'est une habitude dans laquelle ils sont tombés, et ce qui est dommage, c'est qu'ils sont conscients finalement des limites de ce système qui ne marche pas bien, et malgré tout, ils continuent dans cette relation, on va dire, je dirais pas dans le secret, mais en tout cas, négociation interne comme ça, au fur et à mesure, avec... Entre l'État et les ONG, mais sans que ça soit public finalement. Ces discussions, elles sont en off, quoi. Et voilà, et après, moi, je ne les connais pas, puisque je n'y participe pas, mais moi, je pense que c'est une fausse direction, c'est une mauvaise direction. En tout cas, ce système-là, il a montré ses limites, et à mon avis, elles sont largement atteintes maintenant. Et je pense qu'il faut que tout le monde devienne conscient que ce n'est pas par là qu'on va y arriver. Je crois que les ONG qui vont participer au débat se trompent, elles ont tort d'y aller parce qu'elles savent pertinemment que de toute façon, il n'en sortira rien. Donc après, c'est ça. Donc c'est une concertation, j'allais dire. Effectivement, quelque part, c'est une acceptation, bien sûr, de la part de ceux qui y participent, c'est évident.
Alors, tout à l'heure, tu as parlé, enfin, tu as évoqué justement le moment où l'ANDRA s'est implanté, en fait. S'est implanté en parlant, en invoquant juste installation d'un laboratoire expérimental. En fait, on a un système de colonisation de l'ANDRA qui est doublé, tu pourras en parler dans le détail, qui est doublé par une occupation policière et militaire de forte intensité. Hein. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas, ONG, c'est pas possible d'être Ponce Pilate par rapport à ce climat d'occupation inouïe et ce climat de répression judiciaire jamais égalé auparavant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que j'ai relevé des choses, par exemple, lorsque les manifestations étaient interdites par la nouvelle préfète nouvellement nommée. J'y reviendrai après, mais déjà par rapport au fait que dans un climat pareil, il n'est pas possible de débattre de quoi que ce soit.
Non, je pense qu'effectivement, la sérénité propre au débat n'existe pas. Hein. Pourquoi elle n'existe pas? C'est parce que l'État a bloqué, les solutions, les options. Les solutions, les options. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une option maintenant, c'est l'enfouissement. Donc nous, on ne peut pas l'accepter, on ne l'a jamais accepté. Donc on refuse, bien sûr, de ce système. Mais qui nous a amené dans cette impasse, finalement? C'est l'État. Moi, ce que je dis souvent aujourd'hui, les opposants, hein, on se retrouve dans le fond d'une impasse, justement, avec en face de l'État. Et pour sortir de cette situation, avant de se taper sur la gueule, hein, je n'ai pas d'autres images, mais je veux que ça soit assez frappant, il faudrait ouvrir une porte au fond de cette impasse. Et cette porte, ce n'est pas les opposants qui peuvent l'ouvrir. On n'a pas le pouvoir de l'ouvrir. C'est bien l'État qui peut l'ouvrir, cette porte. Et c'est quoi la seule solution qu'il y a? C'est que l'État revienne à des discussions sans préalable, j'allais dire, puisqu'aujourd'hui, ils veulent bien discuter, mais avec le préalable de l'enfouissement, quoi. Ça veut dire, on discute de tout, de la couleur des fûts, de ce que vous voulez, mais de toute façon, on va enfouir. Donc ça, c'est pas acceptable pour nous. Donc à partir de là, effectivement, c'est pas nous qui sommes radicalisés, c'est l'État qui a radicalisé sa position. Et donc, de fait, bien sûr que les oppositions sont radicalisées, c'est une évidence, mais pour moi, c'est les conséquences de la position de l'État, c'est rien d'autre. Alors, ce que je peux dire par mon expérience, c'est que j'organise les manifs sur le mur depuis très très longtemps. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu d'inquiétude sur le droit de manifester, j'allais dire. Maintenant, on commence à en avoir. Simplement, cette année, on met en place une manifestation sur Nancy, qui est prévue le 1er juin. On ne sait pas du tout quelle sera la réaction de la préfecture. Est-ce que cette manif sera autorisée, pas autorisée? Nous, quand on est organisateur d'une manifestation, on ne demande pas l'autorisation, hein, on la déclare, la manif. On la déclare. Après, si le préfet prend l'option de dire nous, on ne l'autorise pas, c'est sa responsabilité, c'est sûrement pas la nôtre. En tout cas, on n'a pas, dans le droit actuel, on n'a pas à demander autorisation. On a juste à déclarer une manifestation. Et aujourd'hui, on est en train de tourner tout doucement dans le sens où c'est plus c'est plus une déclaration qu'on doit faire, mais c'est une demande d'autorisation. Et bien sûr, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour nous, et c'est pas le droit français. Donc il faut être vigilant aussi là-dessus, parce que je crois qu'il n'y a pas que la lutte contre le mur, hein, qui est concernée, la lutte contre le nucléaire, bien sûr, mais on voit aussi ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes. On voit bien que cet État, l'État aujourd'hui qu'on a en face de nous, est un État répressif, quoi, et qui est en train de tuer nos libertés. Et la première liberté, pour moi, dans une démocratie, c'est le droit de manifester. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat.
Oui, alors justement, l'année dernière, d'ailleurs, tu avais fait cette déclaration à Mandres-en-Barrois le 4 février, après la manifestation du 3 qui s'était relativement bien déroulée, où l'ensemble des manifestants étaient partis pour installer une vigie sur un terrain à la lisière de la forêt de Mandres-en-Barrois. Et en fait, le lendemain, tu as effectivement déclaré ça, le gouvernement s'est placé dans une impasse, il n'y a pas d'alternative pour lui, c'est bure ou bure. Or, on ne peut pas discuter avec des gens qui nous expulsent. Il y avait eu l'expulsion, effectivement, du Bois-le-Jus le 22 février précédent. Et oui, on en est là. Donc, les interdictions, est-ce qu'elles courent toujours? Les interdictions de circuler en forêt, je crois que tu l'avais évoqué à la conférence à Reims.
Ouais, alors on fait pas exactement où ça en est, ça. Il faut savoir qu'il y a eu un, alors, je pense que c'est un arrêté, je pense que c'est un arrêté que ça s'appelle, d'interdiction de séjour dans le Bois-le-Jus qui a été expulsé. C'est-à-dire que si vous promenez dans le Bois-le-Jus, dès la première heure, vous êtes astreint à payer une amende de 500 euros par heure, quoi. Par heure commencée. Donc, vous voyez, vous faites une balade dans le Bois-le-Jus, vous le traversez, vous mettez deux heures, bah, vous en êtes pour 1000 euros. En gros, c'est ça la liberté de traverser le Bois-le-Jus. Aujourd'hui, on peut même plus traverser ce bois, quoi. Alors, est-ce que cet arrêté est toujours en vigueur? Je ne sais pas. On n'a pas de réponse complète là-dessus. Il courait jusqu'en fin d'année dernière, enfin septembre, je crois. Donc, je ne sais pas s'il a été renouvelé, on ne sait pas. Donc, voilà, ben, on verra. Peut-être qu'on ira faire un tour au bois aussi bientôt pour savoir si cet arrêté est toujours d'actualité. Mais bon, ça, on verra bien ce qu'on va décider de faire. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait aussi cette action-là.
Est-ce que tu veux évoquer, Denis, tu as des questions? Jean-Michel, tu as des questions?
Moi, Camille, c'était par rapport à toi. Donc, Jean-No, t'as présenté, t'es président de l'association des élus contre
Jean-Marc.
Jean-Marc, qu'est-ce que t'en retires comme expérience, toi, par rapport en tant qu'élu? Normalement, entre guillemets, tu devrais être un interlocuteur valable pour le représentant de l'État qui est le préfet et toutes ces institutions, c'est-à-dire normalement tu as un niveau d'égalité, enfin tu vois ce que je veux dire, tu fais partie des instits et tu sers aussi à relayer le fonctionnement, tu agis au quotidien tous les jours en tant qu'élu. D'ailleurs, t'es élu quoi, t'es maire, c'est ça?
Alors maintenant je suis plus maire, hein. Élu depuis la dernière fois, hein, mais notre association est ouverte aux élus et aux anciens élus.
D'accord. Ouais, alors voilà, comment tu confrontes ton expérience d'élu et ton expérience en tant qu'opposant?
Alors, je crois que j'ai du mal à dissocier les deux, parce que finalement, quand j'étais élu, j'étais opposant. Maintenant que je suis plus élu, je suis toujours opposant. Donc, je le prends pas comme ça, mais je prends l'évolution surtout dans le ressenti. Moi, mon ressenti à moi, c'est qu'aujourd'hui, quand j'organise une manifestation sur contre Bure, je prends des risques.
Ouais.
Je prends le risque d'être perquisitionné, peut-être emprisonné, mis en garde à vue, ou peut-être emprisonné un petit peu. Donc, ce sentiment, je ne l'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Je l'ai depuis en gros un an, quoi. Donc, je crois que les pouvoirs publics nous prennent plus comme des interlocuteurs avec qui on peut discuter, mais bien pour des empêcheurs de tourner en rond et pour des gêneurs, quoi. Donc, aujourd'hui, élu ou pas élu, je me sens je me sens effectivement en tout cas je risque, à mon avis, maintenant j'ai un risque d'emprisonnement, de mise en garde à vue, etc., que je n'aurais jamais imaginé au début de la lutte. Jamais. Donc il y a pour moi une dérive aussi de la part de l'État qui a fermé la discussion, qui ne cherche plus d'interlocuteur et qui veut passer en force, quoi, et par cette répression aggravée. Moi, il faut savoir qu'il y a un régiment, ou je ne sais pas comment on appelle ça,
de
gendarmerie mobile.
Une garnison,
qui est en peloton, voilà, qui est en place régulièrement. Donc ils sont renouvelés tous les 2-3 mois, mais ils sont en place là-bas. Donc ils sont pratiquement aussi nombreux que la population des petits villages qui sont là-bas, quoi. Donc là-bas, la vie, elle devient aussi infernale, parce que vous allez vous balader, vous êtes contrôlé. Alors contrôlé une fois, on peut comprendre. Citoyen, ça arrive des contrôles, mais quand vous êtes contrôlé plusieurs fois dans la journée par les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est pas un autre, c'est même pas un autre gendarme, c'est celui qui vous a déjà contrôlé le matin, il vous recontrôle l'après-midi, puis le soir, quoi. Donc ça, c'est intenable, quoi, je veux dire. Donc c'est très compliqué. Donc après, on dit, ah bah oui, mais il y a des dérapages, il a haussé le ton, il a fait je sais pas quoi, bah oui, mais quand on a cette politique d'exaspérer les gens, forcément, on arrive après à les mettre en colère, si je puis dire, à les mettre en difficulté, et puis on a facile ensuite à les inculper pour je ne sais pas quoi.
Pour rébellion ou pour...
rébellion, je ne sais pas quoi, voilà. Donc c'est une politique vraiment de répression là, qui est en place, et pour l'instant, on ne voit rien venir d'autre, quoi. On n'a pas de... On ne voit pas de porte de sortie, on ne voit pas de... l'État semble... s'arc-bouter sur cette position de passer en force et de répression.
Et qu'est-ce qui, selon l'ensemble des gens que tu côtoies, avec qui tu luttes, pourquoi l'État s'entête à mener un projet comme celui-ci, alors que techniquement, on sait très bien qu'il est totalement erroné, Et ça, il y a une multitude d'arguments, des arguments techniques, des arguments scientifiques, bien sûr. Il y en a eu de nombreux qui ont été évoqués, qu'on a évoqués à cette antenne. Pourquoi ils s'entêtent, en fait ? C'est un peu comme... Moi, ça me fait penser aux essais nucléaires qui ont été menés pendant plusieurs décennies et dont on a occulté les conséquences sur les populations. Et aujourd'hui, par exemple, il y a encore des populations qui disent, notamment dans le Pacifique, qui disent il va falloir payer, il va falloir reconnaître la morbidité de ces essais nucléaires et leur impact sur le long terme.
Moi, j'ai envie de répondre lobbying, quoi. Moi, je vois que c'est la seule explication, c'est qu'il y a un lobby très fort, le lobby nucléaire est très fort. Je crois que dans ce pays, il faut que le gouvernement rencontre les industriels, c'est normal, mais que les industriels arrivent maintenant par leur lobbying bien huilé, j'allais dire, à imposer quasiment leurs décisions au gouvernement. Je pense que c'est de ça dont on souffre principalement. C'est pour ça qu'on n'avance pas sur l'écologie, qu'on n'avance sur rien, parce qu'il y a toujours un lobby qui vient là pour défendre ses intérêts, puis c'est eux qui sont entendus et pas nous. Donc moi, je réponds lobbying là-dessus. Hein. Moi, je pense que là, on a affaire au lobby nucléaire qui est fort, qui est puissant. Il faut connaître quand même, regarder doucement en arrière, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Notre Premier ministre s'est bossé chez Areva, a travaillé très longtemps chez Areva, donc on a une explication, un début d'explication à la position pro-nucléaire du gouvernement. Et puis notre président de la République, il ne faut pas oublier quand même que c'est lui qui a fait passer l'amendement Longuet pendant qu'il était ministre des Finances, quoi. Et là, on voit bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, puisqu'à l'époque, c'était dans un gouvernement socialiste, et Longuet socialiste, non, sûrement pas, hein, si on ne peut pas trouver plus à droite que Gérard Longuet, je pense. Hein. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de frontière non plus politique, il y a ce lobbying qui s'exerce, et puis qui arrive pour l'instant à continuer à exercer son pouvoir sur le gouvernement, je dirais.
Mais au niveau argumentation, au niveau de ce lobbying, ils ont jusqu'à maintenant toujours parlé de lutte contre la désertification. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que la désertification, je crois qu'elle s'est accentuée depuis 1994.
Oui. Alors, c'était ce que... Moi, je vais prendre un exemple là, d'un élu local. Les élus locaux ont effectivement, dès le début, ils ont pris l'argent, bien sûr, puisqu'on donne quand même beaucoup d'argent tous les ans au département de Moselle et de Haute-Marne, et depuis le début. Hein,
Vous êtes acheté, quoi.
Et cet argent était effectivement, on a fait miroiter cet argent comme une possibilité de développer le territoire. Aujourd'hui, si vous allez vous promener à Bure, vous allez voir qu'il ne se passe rien à Bure, si ce n'est que les gens s'en vont. Et le meilleur exemple en est le canton de Montier-sur-Sault, où il restait un collège. Le collège, on l'a fermé l'an dernier. Alors que les promesses, c'était que on allait ramener de la population, etc., des enfants, tout ce que vous voulez. Donc sûrement pas fermer le collège. Et aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a fermé le collège de Montier-sur-Sault, donc la commune la plus proche, qui avait encore un collège, là-bas. Donc les gamins, ils sont partis maintenant, ils vont à 35 km, enfin, ils vont où ils peuvent, quoi. Et on voit bien là que le développement, il n'existe pas. Au contraire, c'est la désertification qui se met en place. Et c'est un désert qu'on a besoin pour mettre,
oui, c'est un désert
pour mettre ce type d'implantation. Donc, nos élus ont été un peu stupides sur cette affaire-là. Alors, je suis un opposant qui dit stupide. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Ils n'ont pas vu le truc. Ils ont cru en promesse de l'endroit. Et puis finalement, donc, pour aller jusqu'au bout, le conseil général du canton de Montier-sur-Sault a monté une association anti-Andra. Alors pas anti-enfouissement hein, encore, mais anti-Andra. Parce que il dit j'ai été berné, on s'est fichu de moi, on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, mais on ne pouvait pas les tenir ces promesses. Je veux dire, il suffisait de nous écouter pour se rendre compte que c'est le contraire qui allait arriver. Et donc on a raison, quoi, depuis. Je crois que quand on a démarré l'opposition, on nous prenait pour des écolos rigolos, hein, la caricature de l'écolo, mais finalement aujourd'hui, on se rend bien compte, tout le monde se rend compte que c'est nous qui avions raison et qu'on a raison. Et pourtant, malgré tout ce qu'on a pu apporter dans cette affaire, dans cette histoire, le mensonge Andra sur la géothermie, ainsi de suite, enfin, c'est inadmissible. Enfin, Andra ment sur tout. L'Andra, bon, n'est pas non plus complètement responsable, puisque les pouvoirs publics veulent l'empuissement. C'est pas les gens de l'Andra qui vont dire, bah, écoutez, non, faut pas faire l'empuissement, c'est trop dangereux. Puisqu'ils sont, ils sont poussés par le gouvernement dans, dans cette voie. Donc, c'est très compliqué. Donc, à la limite, l'Andra, bon, bah, ils font leur boulot, quoi, ces gens-là. Hein. Ils font leur boulot dans le cadre d'un établissement public. Hein. Et puis, voilà. Et public et industriel. Hein. Le PCI, voilà. Ils font leur boulot. Alors, bien sûr, nous, c'est à eux qu'on a affaire principalement, mais finalement, ça arrange bien le politique, puisque il y a un interlocuteur, l'infusible, on va dire, entre guillemets. Mais c'est bien le pouvoir public, le pouvoir politique qui décide d'enfouir à Dieu. Et donc, l'Andra, bah, l'Andra suit. Si demain, le pouvoir politique dit à l'Andra, bah, il faut prendre une autre direction, voire une autre voie, bah, l'Andra suivra. Mais l'Andra est aux ordres. Hein, il faut, donc, voilà. Moi, maintenant, être aux ordres, c'est pas... On leur demande pas, enfin j'espère qu'on leur demande pas de mentir, mais j'en sais rien. En tout cas, le mensonge, c'est du zèle, pour le moins.
Ben, disons, l'Andra peut-être pas, mais la SN avait quand même rendu des conclusions assez consternantes sur l'efficience de ce projet, mais malgré tout a dit quelque chose comme c'est peut-être la moins pire des solutions, je sais pas. Et par ailleurs, ben, le pouvoir d'État, le cornu en l'occurrence, lorsqu'il vient récemment en Meuse, c'est pour amener 389 millions d'euros en disant... alors c'est bizarre parce qu'il est ministre de, il est secrétaire d'État à l'environnement et il parle des routes et des voies ferrées. 389 millions d'euros pour refaire des routes... faire des doubles voies, des quatre voies, ou des deux fois deux voies, et la, les voies ferrées, évidemment financer le pouvoir de la police, et en disant toutefois qu'ils vont former des jeunes, parce qu'il y aura besoin des nouveaux emplois dans les forages et dans l'énergie. Alors, on a quand même un double discours, quoi. On a une propagande inouïe et puis on a une collusion du pouvoir d'État et du pouvoir juridique qui est patente, quoi.
Oui, alors sur le cornu, pour parler de lui rapidement, quand il est venu en Meuse, il faut savoir que le préfet délégué, parce qu'il y a un préfet délégué au projet CIGEO, hein, en plus du préfet de la Meuse, on a donc un préfet délégué juste à ce projet. Le préfet délégué nous a appelé le lundi ou le mardi, je ne sais plus, pour un rendez-vous avec le ministre, le mercredi, ou je ne sais plus quel jour exactement. Vendredi, je crois. Il nous avait filé un rendez-vous pour le vendredi, je crois. Ils nous ont appelé deux, trois jours avant, donc c'était assez compliqué. Maintenant, on s'est dit, un ministre vient chez nous, demande à nous rencontrer. Unanimement, on s'est dit, on ne peut pas refuser. La population ne comprendrait pas qu'on refuse le dialogue. Pourtant, dialogue, on a usé. Donc, on avait dit oui à cette rencontre, hein. Et puis, donc, c'était prévu le vendredi. Et puis, le jeudi matin, qu'est-ce qui se passe? À 5h du matin, ou 5h30, mon téléphone sonne. Et on me dit qu'on est en train d'expulser le bois-logis.
Oui.
Donc, la veille, on a un ministre qui nous dit, on va discuter, venez discuter. Et puis, le lendemain, il expulse le bois-logis sans qu'on soit formé, rien du tout. Enfin, bref. Et donc, le vendredi matin, ben, bien sûr, on était tous unanimes. Il n'y a eu personne. Parce qu'il nous attendait le vendredi matin. Il n'y a eu personne à son rendez-vous. Donc, voilà le comportement de ce ministre de l'Environnement. Il faut savoir quand même que ce secrétaire d'État, hein, puisqu'il est ministre de l'Environnement, c'était Nicolas Hulot. Hein. Mais il faut quand même savoir qu'il avait besoin de cette rencontre avec les opposants. Il la voulait parce qu'il voulait montrer que malgré tout, qu'il concertait. Donc l'expulsion pour soi-disant faire respecter l'état de droit d'un côté, puis de l'autre côté, la concertation avec les qui était représentatif, mais on ne pouvait pas accepter cette concertation-là, nous, après l'expulsion. Enfin, il y a une solidarité sur place, maintenant, entre les mouvements d'opposition. Et cette expulsion, pour nous, était insupportable. Et voilà, puis pour en finir avec le cornu, en étant secrétaire d'État donc, à l'écologie, il a quand même donné la Légion d'honneur à la préfète de la Meuse, enfin, qui est maintenant préfète de la Meuse, puisqu'elle a été remplacée, pour avoir tabassé, en gros, pour avoir fait régner l'ordre public dans le secteur de Bure, quoi, en gros. Et ça, c'est le ministère de l'écologie, quand même, qui a proposé cette nomination. On croit rêver, quoi.
Tout à fait.
Rêver.
Ouais. On va peut-être faire une pause musicale, là, et puis ouais. On te reprend après, hein, tu ne coupes pas. D'ailleurs, je pense ouais. que Jean-Lo va venir te parler au téléphone.
Ok.
Le marché. marchand de sable est devenu un dealer de poussière, un briseur de rêves, esclave des élites financières, un trafiquant d'armes, un fournisseur de drames, de larmes, un simple fabricant de missiles nucléaires. Ils veulent ensevelir nos idées, atomiser nos espoirs. Et oui, les frères et sœurs, nous sommes en guerre, un contre-pouvoir face à ces dictateurs qui veulent faire de notre joli monde un enfer.
Caché derrière vos ordres, horrible mission de bleu vêtu à bure, missionnaire de destruction, sort du rang, casseur des champs, ce chant pour nos enfants que je t'envoie en pleine face à face. Avec ton cœur de glace, prends ta baffe et de grâce, casse-toi de là, dans la forêt t'as pas ta place. Les hiboux, debout la lispo, à genoux.
La violence ou le chaos, c'est un raccourci où elle est copaine. Faut parler vrai, ça fait un temps que certains, certaines sont enivrées. Glace nos paroles, les rossignols. Une colère vive en réponse aux mensonges. Les briseurs de rêves sont sans songe. Et ensemble des deux côtés du miroir, je sais pas si tu peux voir, mais le miroir de nos souffrances, ils l'ont tué, veulent l'enterrer. Mais notre parole, c'est comme notre âme, c'est comme la rime. Mais souvent, je me repose sur des rives d'espoir.
Viens pas me casser le champ des possibles. J'ai le flow magnétique, cracheur de flux. Communiquer à la bonne distance des gens. Comment faire ensemble sans faire semblant? Voici ma désolation, demeure sensible. Le combat est partout où le désert s'approfondit instable. Nos champs de cailloux restent intraçables.
Terre aride, c'est tout ce qui pouvait arriver. Nos corps sont brûlés à l'acide, mais qu'avait-il tant espéré? Une défaillance ancestrale, total oubli du rythme astral. Nouvelle folie occidentale, un résultat défectoral. Un esprit sain dans un corps sain. Non mais regarde autour de toi, juste des angoisses tous les matins et des douleurs dans l'estomac. On détruit tout ce qui nous fait vivre. Qu'attendons-nous depuis tout ce temps pour repasser à l'offensive? La haine a envahi nos champs.
Check ma commissure, commissaire, sur ton fumier de manche misère, commis d'office et militaire, voilà la constellation de notre colère, ton travail mérite sa pierre, dans les ciels et sur leur tête, par mon parvo, ni Dieu ni maître, mort aux vaches et poudre de champêtre, par mon parvo, ni Dieu ni maître, mort aux vaches et poudre de champêtre.
Ras des villes, ras des champs, sans débile en équipement, sans aucune rue adjacente, ce soir on tapera pas la banque, on ira où on voudra quand on voudra. Et on s'aimera encore, même quand l'Andra sera mort. Dans les yeux des mille, rougis par la lacrymo. La même détermination que celle de la bande à Bono. Ça fait zaï, 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 flashball sur la colline. Et ça caille, 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 dès qu'on sort du sleeping. Quoi qu'il vaille, 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 Dassin avait la classe. Casseur des champs, chanteur des casses.
Allume le feu de la rage contre leur haine glaciaire. Dans la brume épaisse, les hiboux sortent avec leur masque à l'arme. Ici plus de bien au mal, non, ni que leur morale. On est des animaux sauvages, des inconnus indominables. Autogestion contre leur geste automatique. Cocktail de face, toute leur matraque. On lance des pavés dream, ouais c'est dramatique. Ici on bouffe pas de viande, mais on a tous un jour rêvé de se faire du pâté de flic.
À coup de haine, je casse les champs des sirènes. Les flics brisent nos champs de la veille, ceux qui nous tiennent aux entrailles. Cette tenaille découpe les murs du son, des klaxons dans les champs, dans les bois, loin du murmure du fracas citadin. Nous hurlons et brisons les lois, celles des séraphins bleus, celles qui nous tuent à petit feu.
Monoculture à perte de vue, le vertige me prend, une terre cultivée, vidée, labourée, éventrée, tout le vivant contrôlé, sous-sol bientôt irradié, alors après le vertige, vient ma rage. J'ai rien à proposer, juste envie de tout péter, la culture, éolien, nucléaire, l'NTHT, c'est la civilisation que je veux voir voler en éclats, pas simplement ce lumineux labo de l'Andra.
Fier d'être un casseur de champs avec mes cernes, rageur d'aimant, mangeur de cailloux assumé, ne me demande jamais d'être clément. Depuis que vous avez débarqué et embarqué toutes mes copaines, j'ai envie de vous embrasser avec un pavé au goût de ma haine. Le feu coule dans mes veines et commence à embraser ma colère, fait bouillonner ma déterre, envie de vous mettre la misère. Je suis pas d'un arrêté pour pouvoir nous arrêter, méchamment révolté, jamais vous ne casserez notre champ.
C'est pour les casseuses, les hackers, les squatteurs des champs qui essayent de penser droit même dans des vapeurs étranges. Pour la chaleur de l'échange, foutre le monde que l'on a fui, pour les soi-disant profiteurs qui caillent. Y'a moins 10 dans la nuit. Les endossiers face au GM. La peur au bine ne nous arrête pas. On leur glace dans les pieds, on les fera reculer. Car si on est ensemble, on a assez de bras. Les connexions se font de la ZAD à la ZIRA. Avec la force du nombre, c'est le vieux monde qu'on enfouira.
Des gens qui jouent au mateur, des gens qui s'opposent aux désastres, ne sont rien d'autre que des gendarmes. Chasseurs du Maine au volant, sans moteur, ils sont trop lents. Ils se mettent à dos les paysans qui tirent la sonnette d'armes en drap. Marche sur des œufs, la vie des voteurs est précieuse pour qu'ils les laissent faire sans qu'ils ouvrent les yeux à bure. Mandron les cris à haute voix, le nucléaire en continu, on le démantèlera.
Mes bleus et mes blâmes, barrez-vous sur le côté. Vos battes pliées s'il vous plaît. Vous avez votre permis de fuir. Je vois que vous êtes pas en reine. Là votre assurance a dépassé ma rate. Je suis mon couplet, vous savez. Gare au larbin des plaines qui déplaît à vos gardiens nobles. Les renégats font des dégâts et que les dégoûts rondes et font des farces de l'ordre.
des pierres dans la face, la mémoire qui s'efface. Ensemble sur nos propres traces, ils se plaignent de la casse. Ce qu'on est qui tabasse, des murmures dans la nasse. Des murs s'écroulent sous la masse, tous dans l'impasse. Caillou, il bouge au jour, on se déclare n'importe où. Dehors c'est l'incendie, combien de gens encore qui mendient. Je réclame pas de Gandhi, mais plus de milliers de bandits. Il faut abonner les caddies pour combattre celui qui t'éradie.
Oui, on retrouve Jean-Marc de Léodra. Donc, on parle de Bure, on parle de la lutte de Bure et des habitants et des différents groupes de lutte. Alors, peut-être dans cette deuxième partie, on va évoquer ce qui a été mis en place par l'ensemble de ces associations et l'ensemble du mouvement pour riposter un peu à cette propagande de l'État qui est toujours la même finalement. Et qui méprise totalement les populations. Alors je crois que vous avez mis en place un cycle très important de conférences dans tout le Grand Est. Et est-ce que tu peux nous parler de ça, un peu de comment ça se déroule? Maintenant, on en est déjà à quelques mois. Jean-Marc, tu es toujours là?
Je suis là, tu m'entends?
Oui.
Ouais. Donc dans la logique de boycotter le débat, on a décidé, certaines associations chez nous ont eu l'idée de dire, ben, puisqu'on boycotte le débat, on va quand même participer quelque part à un débat, mais un débat à notre façon. C'est-à-dire qu'on a décidé d'organiser un cycle de conférences sur l'ensemble de la problématique autour de Bure. Et donc, ça va se terminer en avril, donc ça commence en décembre ou en janvier, je ne sais plus. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on remplit les salles, quoi. On a vraiment beaucoup de gens qui viennent nous entendre, quelles que soient les problématiques choisies, par exemple le transport. Là, c'est la semaine dernière, il y a eu le procès de CIGEO. Donc c'était une mise en scène d'un procès de CIGEO à Bar-le-Duc. Et donc ça a été aussi très suivi, il y a eu pas mal de monde. Donc par ce biais de cycle de conférences, ben, on a voulu... voilà, de montrer qu'on n'était pas fermé, au contraire, à la discussion, qu'on donnait de l'information, qu'on parlait, nous, aux citoyens, non pas pour simplement leur parler, mais aussi pour les entendre. Et puis ça nous permet aussi, nous, de nous mobiliser, de nous remobiliser, d'occuper l'espace. Hein. Donc là, c'est le CEDRA, Collectif Citoyen Haute-Marne, et puis Mirabel, donc, qui sont, on va dire, organisateurs de...
Oui, alors précisons, Mirabel, c'est une fédération lorraine d'environnement, enfin de naturalistes, d'environnement.
Environnementaux qui sont opposants aussi à Bure. Quoi. Donc c'est eux qui sont les organisateurs. Nous, on participe en les aidant pour le coût de location des salles et surtout aussi en participant bien sûr aux conférences comme j'ai pu le faire moi à Reims et puis comme je vais encore le faire bientôt à Mignon-Barrois et je sais plus où et après avec Claude Cazer des conférences sur la sortie du nucléaire en 10 ans puisqu'on a aussi on propose aussi un scénario de sortie du nucléaire en 10 ans et quand on me dit qu'il faut reculer toutes ces dates c'est toujours les lobbies qui reculent les dates c'est vrai pour le nucléaire mais c'est vrai pour tout hein. La suppression du plastique on peut jamais ou on recule toujours parce qu'il y a toujours un lobby qui vient pleurer qu'il peut pas lui il faut lui laisser le temps de s'adapter ainsi de suite donc voilà pendant ce temps-là ça s'amoncelle le plastique s'amoncelle les déchets nucléaires se produisent enfin voilà c'est tout ça et il est temps de réagir parce que sinon il en va de la poursuite de l'humanité quoi donc il faut que le citoyen se fasse entendre c'est pour moi, le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est que le citoyen massivement se fasse entendre.
Oui, puis alors les habitants qui viennent à ces conférences se rendent compte, parce qu'ils ont entendu parler par les médias propagande d'associations de malfaiteurs et tout ça. Et comme vous disiez l'autre jour à Reims, par exemple, oui, voilà, c'est nous. Nous sommes de l'association de malfaiteurs couramment mentionnée par les médias. Dans le territoire de Bure et de Meuse. Voilà.
Le seul crime dont je peux être accusé et duquel je devrais être acquitté selon la loi française, c'est celui de m'opposer à un projet d'État. C'est le seul crime, entre guillemets, que j'aurais pu commettre, mais c'est comme c'est pas un crime, j'ai rien sur la conscience. Donc moi, je continue à agir, même si je sais que c'est plus difficile aujourd'hui, c'est plus dangereux pour moi. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants. j'ai pas envie de finir en garde à vue ou je sais pas quoi. Mais je continue parce que je peux pas m'arrêter. Je crois que tant que j'aurai la capacité physique de m'opposer, bah, je m'opposerai à ce projet parce qu'il faut pas qu'il se fasse ni ici ni ailleurs. Et puis bien sûr, au départ, nous, des gens comme moi, je ne suis pas du tout pro ou anti-nucléaire, j'en sais rien, je m'en fous. Enfin, je veux dire, à l'époque, quand je démarre ça, je m'occupe pas de savoir d'où vient l'électricité. C'est peut-être bien le drame aussi. Il faudrait qu'il y ait une conscience, une prise de conscience citoyenne plus importante, mais j'ai été comme beaucoup, moi, jusqu'à ce que je sois élu, finalement. Alors, on dit des fois, les élus, tous pourris. Bah, pour ce qui me concerne, c'est le fait d'être élu qui m'a ouvert les yeux.
Ouvert les yeux, ouais.
Ouais.
Oui.
Donc, voilà, faut pas être généraliste non plus. Voilà, il y a aussi des bienfaits, j'allais dire, de l'élection, mais voilà, on n'a pas su convaincre suffisamment d'élus pour arrêter ça dès le départ, parce que c'est là qu'ils auraient fallu l'arrêter, quoi, dans l'œuf, quoi.
Ben oui, ce qu'on se rend compte, c'est on fait tous un cheminement, mais quand on a été confronté, quand vous avez été confronté à ça, que ce soit Claude ou toi ou d'autres élus de Léodra, ouais, c'est que finalement très vite on se rend compte qu'on est on s'oppose à un projet d'État et finalement on est en posture de batailler contre l'État. Contre un projet, et la force doit rester à l'État, force doit rester à ces projets d'État qui s'imposent parce que eux, ils ont la vérité et ils font croire aux autres que ils leur font croire qu'ils peuvent décider alors qu'ils décident de rien. En fait, c'est ça la démocratie, la pseudo-démocratie qu'on subit, quoi.
Ouais, c'est encore, je crois, plus vicieux que ça parce que je pense que même quand ils se trompent, ils le savent. C'est-à-dire que même quand ils prennent les mauvaises décisions, qu'ils veulent imposer aux citoyens les mauvaises décisions, je pense qu'ils ont tous les éléments qu'on a nous et je pense qu'ils savent que c'est pas la bonne décision qu'ils veulent nous imposer. Donc il faut réagir, il faut que les citoyens se prennent en main. Moi, je le dis souvent dans les conférences que j'anime depuis maintenant longtemps, on peut pas traverser une vie de citoyen, on vit dans une société, on peut pas traverser toute une vie comme ça sans s'occuper de l'autre, finalement, sans se préoccuper de l'autre ou de l'état de la société dans laquelle on vit. C'est pas pour moi, c'est plus concevable. Autant j'avoue que ce sentiment-là, c'est la lutte contre CIGEO qui me l'a fait comprendre. Et depuis, bah, je m'engage, et je suis engagé pas seulement dans CIGEO, je m'engage aussi dans d'autres choses. Mais après, le temps est limité. Je crois que chaque citoyen doit être conscient qu'on ne peut pas passer comme ça une vie en étant indifférent aux décisions qui sont prises par la société, par les gouvernements qui se succèdent. C'est notre responsabilité de se faire entendre, voilà, de participer à la décision. Et moi, j'appelle vraiment tout le monde, tous les citoyens, à s'impliquer plus, à participer. Et c'est par là qu'on pourra y arriver. Plus on sera nombreux contre ce projet ou d'autres projets, hein, il n'y a pas que celui-là, mais ce soir, on parle de celui-là. Je pense que plus on a de chances de vivre dans une société plus saine et plus juste.
Mmh. Alors, oui, Denis, attends, je voulais juste poser une question, c'est que le vendredi 15 mars, c'est très très bientôt, à Ligny-en-Barrois, il va y avoir une conférence qui s'intitule « La fabrique du consentement » à Bure, ou à Bure, non, c'est à Ligny-en-Barrois, et tu seras présent
Oui, normalement, je suis un des intervenants.
D'accord.
Ah, donc voilà, moi je suis intervenu sur le témoignage de la lutte, hein, dans ce cycle de conférences, et puis je vais intervenir là sur, on va dire, l'acceptation citoyenne, quoi, pas la façon de faire accepter aux citoyens.
Par rapport à ton combat, est-ce que tu crois pas qu'il y a des incointances avec le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que dans votre coin, comment que ça s'est passé, le mouvement des Gilets jaunes, justement?
Alors, moi, je veux dire une anecdote un peu personnelle. Moi, je suis allé principalement au tout début sur les ronds-points, mais pas pour m'exprimer, parce que c'était pas le but. Hein. Mais par contre, sur les ronds-points, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont reconnu, parce que depuis des dizaines d'années, mon visage commence à être un peu connu. Et j'ai eu plusieurs fois des personnes qui sont venues discuter avec moi, et puis en gros, qui m'ont demandé ce que je faisais là, presque. Et je leur ai expliqué que simplement, j'étais solidaire de leur lutte. Et là, j'en ai plusieurs qui m'ont dit, ouais, ben c'est vrai, t'as raison, c'est la solidarité des luttes qui est la solution. Et ils m'ont dit, ben on aurait dû venir avec vous, quoi, contre Bure. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et donc et après les empruntances, bien sûr, qu'il y en a, il y a des choses qui sont partagées, bien sûr, avec, avec les gilets jaunes, pas tout, mais bien sûr qu'il y a des choses. Moi, si je passe sur un rond-point aujourd'hui avec des gilets jaunes, je vais passer un coup de klaxon pour les soutenir. Bien sûr qu'il y a... Je crois que ce mouvement des gilets jaunes fait partie de ce que je demande depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le réveil du citoyen, et puis le fait que le citoyen essaye de se prendre en main, et puis refuse, quand il pense que ce n'est pas acceptable, refuse des décisions qui sont prises par nos gouvernants, bien sûr.
Je crois que par exemple, bon, je vais t'arrêter là-dessus après, à Commercy, je crois que dans la lutte des gilets jaunes de Commercy, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient investis dans la lutte de Bure.
Oui, oui, bien sûr. Coquezer, on a déjà parlé deux, trois fois, puis d'autres. Oui, bien sûr, mais ils ont toujours pris soin de pas
mélanger,
interférer ouais. avec Bure, mais par contre, ils créent des liens. On crée plus de liens quand on n'interfère pas, quand on ne veut pas convaincre les gens. Finalement, ils se rendent compte qu'on lutte avec eux. Et quelque part, comme je le disais tout à l'heure, un peu, ils se reprochent un peu de ne pas nous avoir soutenus plus tôt. Quoi. Et plus vite, peut-être pas tous, hein, mais en tout cas pour certains, oui, ils font le cheminement, c'est sûr. Donc il y a un rapprochement des luttes, oui, bien sûr. Je pense sincèrement qu'il y a. Voilà. Moi, de toute façon, personnellement, à titre personnel, je suis complètement pour le mouvement des gilets jaunes parce que je pense que cette société se doit d'entendre des gens qui souffrent parce qu'il s'agit de ça. Les gilets jaunes sont des gens qui souffrent. Et quelle est la réponse de ce gouvernement? Eh bien, c'est les bombes, la primo, c'est les coups de matraque, c'est les flashballs, c'est tout ça. Donc ça, c'est inadmissible. Je veux dire, on devrait tous se lever contre ça. Parce que ça, c'est pas admissible dans une société, dans un État démocratique, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc rien que pour ça, on doit tous être solidaires du mouvement des Gilets jaunes, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais il y a cette lutte aussi hein, maintenant contre la répression, j'allais dire, qui est commune à tous les mouvements.
Ouais. Hein,
marche du climat, Gilets jaunes, nous, lutte contre le nucléaire. Bon voilà, je crois qu'on doit tous être solidaires, hein, au moins sur ça, quoi. Il y a une répression qui est inacceptable. Inacceptable, nos libertés. Quand on prend aujourd'hui, quand on tape sur nos libertés, demain sur quelles autres libertés on va taper, si on laisse faire, on ne peut pas accepter ça, je veux dire, à partir du moment où il n'y a plus le droit de manifester, ben on n'est plus en démocratie. Quoi. Et donc il faut se battre, garder ce droit de manifester, et surtout pas aller vers une autorisation, une demande d'autorisation. Non,
tout
c'est bien
fait,
une demande
ouais.
de déclaration aujourd'hui qu'on doit faire, c'est tout.
Ouais,
c'est tout. Et moi, c'est ce qu'on a toujours fait. Voilà. Nous, notre assoce, on a toujours déclaré nos manifestations, mais c'est de plus en plus difficile maintenant. On a des discussions avec les préfectures qui sont très compliquées. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans que c'est de plus en plus compliqué. Jusqu'au moment où ils vont prendre la décision de nous en refuser une. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passera. Puisque nous, on ne sera pas dans la position de dire quoi. Moi, je vais dire à des personnes qu'on appelle depuis plusieurs mois à venir à un endroit, à un instant T, je vais dire non, ne venez plus, mais enfin, ces personnes-là, moi, je ne suis pas leur maître, leur voix. Hein. Moi, je les invite à venir à un moment donné manifester, mais je les maîtrise pas, puis Dieu merci. Je suis pas là pour... Sinon, c'est le contraire de ce que je dis, quoi. Moi, je suis là pour dire aux gens, bah, réveillez-vous, venez manifester à tel endroit, tel jour. C'est tout. Et après, on organise, nous, la manifestation, on essaye de l'organiser dans le sens qu'on veut, mais puis après, tout le monde vient avec sa façon de manifester, j'allais dire. Ça, moi, je suis pas... Je dis toujours, en préalable, aux préfectures, quand on discute de tout ça, j'en dis toujours, moi, le serviteur, c'est pas moi, c'est vous les pros, hein, c'est pas nous. Nous, on vient juste manifester contre un projet. Donc après, le service d'ordre, la sécurité des citoyens, c'est vous. Et force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, le service d'ordre, c'est de la répression, c'est tout. Bon, moi, j'avais pas ça un service d'ordre. Hein. Je vous rappelle quand même que, normalement, les policiers chez nous, c'est des gardiens de la paix. C'est ça, quand même. Leur première appellation, c'est les gardiens de la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, ils gardent la paix? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que dans toutes les manifestations, ils sont plutôt là pour attiser et chercher le conflit. Quoi. Donc, c'est pas le but, c'est pas le but originel. Hein. C'est bien garder la paix. Donc, c'est ça qu'on attend d'eux quand on fait une manifestation. Moi, j'attends des forces de l'ordre qu'elles fassent en sorte que la manif se passe bien. Hein. Et donc, je crois qu'il faut simplement qu'on revienne peut-être à des choses élémentaires, originelles, j'allais dire. Mais pour ça ne se fera pas tout seul, on a besoin du citoyen.
Oui, alors je voulais signaler les trois derniers grands volets de ce cycle de conférences. Il y a le commencement de l'ère nucléaire, Donc, il y aura une date à Nancy, le 20 mars. Le 21 mars, les conséquences philosophiques et la politique de l'invention du nucléaire. Ensuite, il y a deux autres volets importants, c'est Histoire des luttes dans le Grand Est. Ça va parler de Stocamine, cacher ses déchets que nous nous saurions voir, à Montier-sur-Sault. Et il va y avoir les luttes antinucléaires dans le Grand Est, donc rétrospective des combats actuels. Donc ça va parler de Longwy, la lutte en Lorraine, et de Chaux dans les Ardennes à la frontière belge. Et le dernier volet, qui est très important aussi, c'est sortir du nucléaire en moins de 10 ans, c'est possible, et sans CIGEO. Donc là, il y aura des dates à Nancy, à Reims, à Couverpuis, à Épinal, à Strasbourg et à Ligny-en-Barrois. Peut-être quelques mots, si tu veux, commenter ces trois grands volets qui restent à aborder. Et puis, je crois que sinon, après, on va se quitter.
Ok.
Et en tout cas, un grand merci.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole et donc d'avoir donné la parole, j'allais dire, à l'opposition en général. Effectivement, ces cycles de conférences sont super importants. Et puis, j'allais dire que le dernier volet, la sortie du nucléaire en moins de 10 ans, c'est essentiellement Claude Cazère qui a travaillé à ça. Donc Claude, c'est un camarade de lutte depuis 95. Hein, donc on milite ensemble. J'essaye à chaque fois que je peux d'aller avec lui pour présenter son scénario de sortie, parce que c'est un scénario sur lequel il a travaillé. Et il n'a rien inventé. C'est bien ça qu'il faut que tout le monde sache, c'est que l'information, on la prend des pouvoirs publics, on la prend des sites EDF, etc. etc. Donc on n'invente rien. Et notre scénario de sortie, il est tout à fait pertinent. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, personne ne nous a dit, personne n'a osé venir nous dire en conférence, quand je dis personne, les représentants de l'État, etc., nous dire en conférence qu'on racontait n'importe quoi. Donc c'est possible. Tout ce qu'on dit, c'est possible. Et c'est toute cette réflexion qu'on a été... ce chemin qu'on a pu... alors, plus ou moins suivant les personnes, mais moi, j'ai fait du chemin, je peux vous le dire, depuis le moment où je suis rentré à Léodra et aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Et aujourd'hui, je ne pensais jamais de ma vie que j'organiserais des conférences pour demander la sortie nucléaire. Jamais de ma vie. Quand j'avais 35 ans, quand j'ai démarré ce combat, mais j'y pensais pas du tout, j'y pensais absolument pas. Et aujourd'hui, avec les informations que j'ai, celles que je te donne, ben, il est évident, oui, il faut arrêter le nucléaire, il faut arrêter ce truc dont on sait que faire des déchets, et puis c'est une énergie, je veux dire, qui est dépassée. Qui est dépassée, puis au regard de, ça fera ma conclusion, mais au regard du temps qui passe, au regard de l'humanité, finalement, de la présence de l'homme sur Terre, voilà une énergie qui aura vécu une petite centaine d'années, c'est tout. Hein, parce qu'elle va, de toute façon, elle va disparaître, elle commence à disparaître partout, elle est amenée à disparaître. Et puis, donc à l'échelle de l'humanité, qu'est-ce que c'est que 100 ans? C'est rien. C'est une minute, c'est le temps de vous mettre un coup de pied aux fesses, quoi, je veux dire, à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Et cette énergie-là, elle va avoir pollué l'humanité pour des centaines de milliers d'années. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on sorte de ce truc et qu'on trouve une solution pour nos déchets nucléaires et pas dire on va les mettre sous le tapis en les enfouissant. Voilà.
On te remercie vraiment bien.
Merci hein. Encore.
Moi aussi, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était Régor. Chaque semaine sur l'école des Grecs à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi libertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.